Bonjour à tous, il est midi ici à Paris, 5h à la Nouvelle-Orléans. Bienvenue dans ce journal.
Karine Bellicha.
Au sommaire de cette édition, l'enquête se poursuit aux États-Unis après l'attaque meurtrière à la Nouvelle-Orléans qui a fait 15 morts. Le profil de l'assaillant se dessine. Un drapeau de l'État islamique a été retrouvé sur place. Des questions se posent aussi après l'explosion d'une Tesla devant un hôtel Trump, cette fois-ci à Las Vegas. Nous évoquerons aussi en France la visite du nouveau garde des Sceaux à Marseille. Les ministres du nouveau gouvernement Bayrou font beaucoup d'efforts pour occuper la scène médiatique pendant cette période de fête. Et puis Dominique Dezonnet se penche pour nous sur les perspectives 2025 en matière d'intelligence artificielle. Joe Biden s'est adressé aux Américains hier soir après l'attentat à la Nouvelle-Orléans. Le président a confirmé que l'assaillant, qui a foncé sur la foule avec son véhicule dans le quartier français, s'était inspiré de l'État islamique. L'attaque a fait 15 morts et une trentaine de blessés. Les enquêteurs font des perquisitions et cherchent d'éventuels complices alors que le profil du tueur se dessine. Yelena Tomic.
Le suspect, âgé de 42 ans, était un citoyen américain, originaire du Texas, un vétéran de l'armée américaine qui a servi de 2007 à 2020, déployé sur plusieurs théâtres de guerre, dont l'Afghanistan. Diplômé en informatique et technologie de l'information au Texas et dans l'État de Géorgie, marié à deux reprises et endetté selon des documents judiciaires. Jabbar a exercé comme cadre pour le cabinet de conseil Deloitte, puis a travaillé dans l'immobilier. Il avait un casier judiciaire pour infraction au code de la route et vol. Converti à l'islam dans sa jeunesse, Shamsuddin Jabbar s'est radicalisé ces dernières années selon des proches. Une radicalisation exacerbée selon un haut responsable de la sécurité par la guerre entre Israël et le Hamas. Le FBI confirme avoir retrouvé dans la camionnette un drapeau de l'État islamique et des explosifs. Shamsuddin Jabbar évoque son allégeance au groupe terroriste dans plusieurs vidéos postées sur sa page Facebook, effacée depuis, et dans lesquelles il évoque son projet de tuer sa famille. Reste à savoir s'il a agi seul, le FBI en doute et recherche d'éventuels complices dans plusieurs villes du Texas.
Les enquêteurs cherchent une éventuelle connexion entre l'attentat et l'explosion d'une Tesla. À Las Vegas, cette fois, un véhicule de la société d'Elon Musk a explosé devant un hôtel Trump hier soir, faisant un mort. Comme à la Nouvelle-Orléans, le véhicule a été loué sur l'application de covoiturage Turo, mais pour l'instant, aucun lien formel n'a été établi. En Syrie, les forces de sécurité ont lancé une opération de ratissage à Homs, dans les quartiers alaouites, la minorité de l'ancien régime Assad. Selon les autorités, des criminels de guerre s'y cachent. La semaine dernière, une offensive avait déjà été menée contre des combattants pro-Assad dans la province côtière de Tartous. Sur le plan international, les nouveaux dirigeants syriens ont réservé leur premier déplacement à l'étranger à l'Arabie Saoudite. Plusieurs ministres sont arrivés à Riyad. Une nouvelle et brillante page avec le royaume s'ouvre, a dit le chef de la diplomatie syrienne. La semaine dernière, le nouvel homme fort de Damas, Abu Mohamed al-Jolani, avait déclaré que l'Arabie Saoudite pourrait tirer parti de grandes opportunités d'investissement en Syrie. Al Jazeera dénonce une tentative de l'autorité palestinienne de masquer la réalité en Cisjordanie occupée. L'autorité palestinienne a décidé hier soir de suspendre la diffusion de la chaîne Qatari. Raison invoquée, Al Jazeera serait responsable d'incitation à la sédition et d'ingérence dans les affaires palestiniennes. Depuis plusieurs semaines, de violents affrontements opposent les forces de sécurité de l'autorité à des factions armées à Jenin, pour la plupart des membres du Hamas et du djihad islamique. Des affrontements qui ont déjà fait une dizaine de morts. Les groupes islamistes dénoncent la suspension d'Al Jazeera. Plus à l'ouest, à Gaza, les bombardements israéliens se poursuivent. Une frappe près de Khan Younes a fait 11 morts, dont le chef de la police du Hamas et son adjoint. Plusieurs civils ont aussi été tués. Au total, 28 personnes sont mortes dans la bande de Gaza ces dernières 24 heures. En France, le nouveau gouvernement Bayrou prend ses marques et les ministres entendent bien occuper le terrain médiatique malgré la période, en principe propice au repos. Bonjour Victorien Villaume.
Bonjour Karine, bonjour à toutes et à tous.
Exemple aujourd'hui avec Gérald Darmanin en déplacement à Marseille.
Eh oui, encore lui, décidément, Karine, le nouveau garde des Sceaux veut conserver une image d'homme de terrain après la visite le jour de Noël d'un centre pénitentiaire et du tribunal d'Amiens. Après la visite du tribunal de Paris dimanche dernier, voilà que Gérald Darmanin se rend aujourd'hui au tribunal de Marseille. Il y est en ce moment, troisième déplacement, donc 10 jours après sa nomination, et des mesures annoncées à chaque fois, que ce soit contre le narco-banditisme, sur l'organisation des prisons ou les violences conjugales, avec le risque, Karine, de passer pour un ministre qui fait surtout de la com.
Et Victorien, Gérald Darmanin n'est pas le seul ministre à faire des apparitions en cette période de fête.
Oui, on peut citer Bruno Retailleau, qui s'occupe du portefeuille de l'intérieur, portefeuille que Gérald Darmanin a d'ailleurs géré plusieurs années. Hier, le très conservateur ministre a par exemple dressé le bilan de la Saint-Sylvestre et dénoncé un ensauvagement de la société à cause des 1000 véhicules brûlés. Il s'était par ailleurs rendu à Mayotte au début de la crise. Eux se sont rendus plus tard à Mayotte, la nouvelle ministre de l'Éducation Elisabeth Borne et celui des Outre-mer Manuel Valls. Autre déplacement à noter, Karine, Astrid Panossian-Bouvet, ministre du Travail dans une agence France Travail, ou encore Yannick Neuder, ministre de la Santé dans un hôpital parisien. Nommé juste avant Noël, dans un contexte de crise politique qui perdure, les ministres ont apparemment à cœur de montrer qu'ils sont au travail. Mais le plus dur, Karine, commence pour eux demain matin, puisqu'ils seront tous réunis autour de François Bayrou pour leur tout premier Conseil des ministres.
Victorien Villaume, du service politique d'RFI. L'intelligence artificielle à présent, les grandes tendances de la tech en 2025 sont parfaitement identifiées. Les IA dites génératives seront de plus en plus performantes, pour le meilleur et pour le pire. Ces programmes se sont imposés dans tous les domaines des activités humaines, à commencer par la politique. Dominique Dezonnet.
Démarquant en 2024, l'IA générative a défrayé la chronique en s'invitant avec fracas dans les campagnes électorales européennes, françaises ou américaines. Le camp Trump en a profité pour diffuser en masse des messages et des clips d'hyper-trucage générés par IA auprès des internautes à l'aide des techniques de profilage des pubs ciblées, nous précisait David Chavalarias, directeur de l'Institut des systèmes complexes de Paris.
À partir du moment où vous avez accès à l'ensemble des traces numériques des utilisateurs, comme c'est le cas pour X et Elon Musk, à ce moment-là, vous pouvez, de manière très fine, essayer de trouver la corde sensible de tout un ensemble de catégories d'électorat, de lui envoyer exactement le contenu qui va la faire réagir dans le sens que vous souhaitez.
Des IA génératives qui se retrouvent désormais entre les mains des groupes mafieux pour mener leurs attaques, nous alertait en mars dernier Guillaume Tissier, le directeur du forum InCyber Europe à Lille, une édition placée sous le signe de l'IA.
Comme toujours, la technologie est ambivalente. Les bons côtés, c'est qu'on utilise déjà depuis longtemps de l'IA dans les solutions de cybersécurité. Le point négatif, c'est que les attaquants vont utilisent déjà l'IA pour automatiser par exemple la reconnaissance de cibles. De toute façon, ces IA élargissent un peu notre surface de vulnérabilité.
Mais il ne faut pas désespérer, certaines de ces IA ont des effets plus bénéfiques en permettant de développer de nouveaux médicaments à moindre coût, précise Yann Gaston Matté, le patron de la société Ictos, un acteur européen majeur dans ce domaine.
On va utiliser de l'IA générative qui va aller inventer une nouvelle molécule, d'aller voyager dans l'espace chimique. On est les seuls au monde à avoir développé une plateforme qui combine l'intelligence artificielle et la robotique afin de synthétiser automatiquement via des robots les molécules qu'on a imaginées grâce à l'intelligence artificielle.
Et nul besoin de sortir sa boule de cristal numérique pour prédire que ces IA en 2025 rythmeront encore notre quotidien pour le meilleur ou pour le pire. Si les agences de régulation du monde entier, lors du sommet sur l'intelligence artificielle qui aura lieu ce 10 février à Paris, ne parviennent pas à imposer aux géants de la Big Tech un cadre rigoureux sur les utilisations et les évolutions éthiques de leurs programmes.
L'intelligence artificielle et ses perspectives, signé Dominique Dezonnet. Un mot du climat et une nouvelle preuve du réchauffement. L'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée en Chine depuis 1961, date du début des relevés. Depuis 4 ans, les records de température sont continus en Chine. Et puis un mot du Vendée Globe pour refermer ce journal. Johan Richaume est toujours deuxième, mais il talonne désormais Charlie Dalin. L'avance du leader de la course autour du monde en solitaire a fondu pendant la nuit. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.